Ça, ce sont les essais.
Supposons Dieu. C'est de toute évidence un événement d'écriture. Dieu est un mot que nous employons ici ce soir en français, qui se dit autrement dans beaucoup d'autres langues, qui est peu connu de ceux qui emploient des langues qui ne connaissent pas l'hébreu. Mais de toute façon, et c'est de ça que nous allons parler, c'est un fait de langage dans une certaine région de l'histoire qui se prétend planétaire. Supposons donc Dieu. Rien que sur cette supposition, nous pourrions rester toute la soirée à essayer de savoir de quoi il s'agit exactement. Dans ce nom. Supposons donc Dieu et prenons-le à la lettre sur le problème de la tentation ou de l'épreuve. Et là, pour ce qui est de l'interprétation du Notre Père, puisque Dieu est supposé être notre Père, les mots qui sont employés dans la prière catholique ont changé avec le concile, c'est-à-dire d'abord c'était ne nous soumets pas, ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ça voudrait dire que si je succombe à la tentation, c'est que Dieu m'y a laissé succomber, et au fond qu'il voulait que j'y succombasse. Et ça a été transformé en, non pas en ne nous induis pas dans la tentation, mais ne nous soumets pas à la tentation. Avec cette belle ambiguïté du mot soumettre, c'est-à-dire être soumis à un examen, un test, à une épreuve, en effet, dans laquelle il est évident que si l'on prie de ne pas y être soumis, c'est qu'on est d'avance perdant. Dieu, c'est celui donc qui pourrait nous soumettre à la tentation dont nous le prions instamment de nous préserver, de nous y soumettre, parce que nous savons que nous avons perdu d'avance. Délivre-nous du mal, nous allons dire ça si nous voulons prendre cette supposition de Dieu tous les jours, pour la même raison, à savoir que nous sommes infestés par le mal et que nous avons de bonnes raisons de penser que nous n'en serons jamais délivrés, c'est pour ça qu'il faut en réclamer la délivrance à chaque instant. Voilà donc un être dit humain qui suppose Dieu, qui le pose et qui le prie en pure perte, il faut le concevoir, de ne pas être soumis à une tentation à laquelle il a déjà succombé et à un mal qu'il pénètre de toutes parts mais dont il espérerait finalement être délivré, ce dont rien ne l'assure. Voilà donc une preuve de conscience dans la prière, dans la demande faite à ce Dieu supposé. Par une série évidemment de dénégations. Hein ? Dieu pourrait éventuellement nous éviter d'être à ce point habité constamment par le mal. Maintenant qu'on a supposé Dieu, on va supposer son Fils, puisqu'il est question de Père, il va être question de Fils dans cette affaire dite chrétienne, qui est passionnante. Pourquoi Dieu, le Père ? va-t-il soumettre son fils avec un partenaire redoutable à la tentation? Partenaire, c'est évidemment le diable, Satan. Au passage, je voudrais simplement évoquer le trouble que serait pour chacun d'entre vous, je suppose, le fait de prier Dieu, non seulement en le tutoyant, mais au lieu de dire « nous », de dire « moi ». Mon Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-moi, comme je pardonne. Ne me soumets pas, n'induis pas, mais délivre-moi. Ce serait déjà un gros progrès, je crois, dans la compréhension intime de cette demande qu'on s'adresse en quelque sorte à soi-même par le biais de quelqu'un qu'on n'ose pas être. Le « nous » est très trompeur. Peut-être que le diable est du côté du « nous ». Quoi qu'il en soit, supposons que Dieu, le Père, défini comme un Père. Pourquoi un Père ? Supposons qu'il est donc un Fils et qu'il soumette à quelque chose qui est de l'ordre que vous connaissez, de la passion, le diable en quelque sorte prenant sa revanche sur l'épisode de la tentation. C'est parce que ce fils-là, supposé être le fils de ce père-là, n'aurait pas cédé à la tentation qu'en somme, il lui serait réservé d'être alors exemplairement celui qui nous, entre guillemets, sauve par sa mort et sa résurrection tant qu'à faire. Je voudrais simplement maintenant venir au texte. C'est Saint Matthieu 4. Ça s'appelle la tentation au désert. Et là, Jésus, dit Saint Matthieu, c'est le meilleur évangéliste sur la question. Il y a Luc un peu, mais c'est moins bien. Jésus est emmené au désert par l'esprit pour être tenté par le diable. C'est incroyable. L'esprit prend ce corps et l'amène au désert pour être tenté par qui? Par le diable. Vraiment, quel scénario! La rencontre est organisée par l'esprit. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'esprit, mais enfin, je n'ai pas le temps. Jésus jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Bon, là vous êtes familier de la Bible et vous savez que 40, ça veut dire les Hébreux dans le désert, tout ça est condensé. Il eut faim. La première tentation va se poser sur la faim. Manger. Il a jeûné, il a très faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Alors voilà quelque chose qui va un peu au fond de la question physiologique parce que, en quelque sorte, première tentation, on a très faim. Faim, quoi. Et la possibilité serait de pouvoir manger tout de suite en changeant de pierre en pain. Manger tout de suite. Être affamé, manger tout de suite. C'est une question qui est finalement de tous les temps. Elle n'est pas spécialement biblique. Même si on va voir que tout ça est suspendu à la réminiscence de la Bible par rapport à la manne dans le désert, comme par hasard, bien sûr. Mais après tout, on pourrait dire que les gouvernants de toutes les époques, et plus que jamais aujourd'hui, spéculent, c'est le mot, sur la faim. Il faut manger. On ne peut pas faire grève indéfiniment. Et il y a un calcul constant sur la faim. Il y a un calcul du pouvoir. Bien entendu, le tentateur ici, sur un plan presque mathématique, est la condensation de ce qui va s'exprimer comme pouvoir, quels que soient les oripeaux, les habits dont ce pouvoir est revêtu. Ça vaut pour aujourd'hui, pour n'importe quel gouvernant de n'importe quelle région en train de spéculer sur la faim. À juste titre, puisque rien n'est plus respectable que la faim, sur laquelle d'ailleurs on peut faire de gros profits en passant. Dans le trafic de la nourriture, qui est, avec la drogue, les armes et d'autres choses, une des grosses activités du prince de ce monde. Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais alors, voilà. Puisque nous avons supposé Dieu, nous supposons son Fils, Dieu le Père, ce que répond le personnage en question. Mais il répondit, il a faim. Il est écrit, parole fameuse qui nous demanderait des jours et des jours d'explication, car elle est si, si bizarre. Ce n'est pas de pain seul que vit l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, nous avons une référence à Deutéronome 8:3, puisque tout ça, c'est de la Bible recyclée, récitée, par quelqu'un qui est venu en quelque sorte la présenter dans des petites séquences fondamentales. Qu'est-ce que c'est qu'un homme, que l'homme? L'homme, qu'est-ce que l'homme? Il vit de pain, oui, c'est sûr, ça, on le voit manger. Il mange tous les jours, il ne pense qu'à ça, ou du moins il spécule sur sa survie pendant que les pouvoirs spéculent sur son évacuation au profit d'une reproduction biologique qui sera elle-même organisée autour de la faim. Ce n'est pas de pain seul, mais vu que vit l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, il y a une proposition extraordinaire, à savoir que la parole est placée de façon aussi radicale, aussi vivifiante et physiologiquement et cellulairement décisive que la nourriture. On peut comprendre qu'après ça, il y ait des rituels qui consistent à avaler le corps supposé de celui qui a dit ça. Parce que quelqu'un dont la parole inclut le corps physiologiquement à un point tel de décision que la fin elle-même est contrebalancée par la parole, il est normal qu'éventuellement on puisse l'avaler sous forme de petites substances de pain. Vous me suivez, j'en suis sûr. Bon. Alors, ça ne, voilà la première tentation. La première tentation, ça voudrait dire, ça veut dire même, dans ce texte capital, que nous repousserions toujours la parole parce que, tout simplement, nous n'avons pas l'impression qu'elle nous nourrit. On bouffe, quoi. Alors le diable change de zap, si on peut dire, le prend avec lui dans la ville sainte, Jérusalem, le place sur le pinacle du temple, c'est pas rien, et lui dit, si tu es fils de Dieu, deuxième tentation, jette-toi en bas, car il est écrit, nous sommes dans le psaume 91, 11, 12, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelques pierres. Deuxième tentation, très bizarre, après qu'on a répondu à cette fin fondamentale par la parole, tout à coup, en quelque sorte, le suicide, hein, le vertige, l'attrait du vide. Mégalomania crie, tu te jettes. Il y a beaucoup de gens qui se jettent par la fenêtre ou ici ou là. C'est arrivé encore récemment à un philosophe français tout à fait fondamental. Quand les gens se jettent, rien ne prouve qu'ils ne pensent pas qu'il y a quelque chose qui va les accompagner en dehors du fait qu'ils vont s'écraser. Dieu aussi est là à chaque instant comme illusion. Et Jésus, alors donc, nous avons supposé Dieu, et Jésus son fils, répond à nouveau, alors ça c'est Deutéronome 6,16, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Là nous revenons un peu à ce que le pasteur Rousseau tout à l'heure signifiait par... Il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve, c'est-à-dire demander du miracle. Là, la référence est très, très exactement celle de Moïse à Mériba, avec l'histoire du bâton qui frappe le rocher dont sort de l'eau. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc là, le Fils de Dieu, pas encore pleinement révélé, dialogue avec le diable. Qui c'est le diable? C'est quelqu'un qui est convoqué par l'esprit pour tenter le Fils de Dieu. Et lui dit au diable, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc tu ne vas pas me prendre, moi, par rapport au Père, à mon Père. Bonjour Freud. Tu ne vas pas me prendre dans une tentation complice de la tienne, puisque je serai à ce moment-là le Fils qui voudrait faire agir son père en dehors de son action permanente pour faire un miracle pour moi. Il faut quand même se rompre à l'idée que cette affaire se noue sur des questions de père et de fils. C'est comme ça. On peut inventer d'autres fondements. Mais pour l'instant, je traite d'un texte. Et celui-là est formel. Alors, troisième, et puis je termine, n'est-ce pas, histoire de la tentation. Pourquoi Dieu nous tente-t-il? Non, pourquoi Dieu tente-t-il celui-là, c'est-à-dire celui qui lui tient le plus à cœur, c'est le cas de le dire. Pourquoi Dieu tente-t-il son, pourquoi un père tente-t-il son fils, en quelque sorte? J'ai demandé à ma femme qui est psychanalyste, Julia Kristeva, je lui dis, ce matin, je lui dis, d'après toi, pourquoi est-ce que Dieu tenterait son fils? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle me dit, elle était pressée. Elle me dit, Dieu est un très bon analyste. Bon. C'est-à-dire, il s'agit de mettre à l'épreuve le désir, évidemment, le plus profond. Ça se passe dans cette dimension-là. Alors, troisième tentative, de nouveau le diable prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit, tout cela je te le donnerai si, en te prosternant, tu me rends hommage. En quelque sorte, le diable se présente, partenaire de Dieu, évident, comme pouvant être une sorte d'autre père. La Bible l'appelle d'ailleurs l'Évangile, c'est le père du mensonge. Il y a deux pères, il y a un père vrai et un père mensonger. Voilà. Il faut se débrouiller avec ça. Il y en a au moins deux. Alors, adore-moi, lui dit ce père qui est sorti de lui-même pour engendrer cet ange qui s'oppose à lui. Merveille de dialectique, hein, le vrai, le faux. Alors, Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Voilà. Là, nous avons l'acte, ça suffit comme ça. Car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. C'est-à-dire, il n'y en a pas deux. Hein. Ou plus exactement, la manifestation tentatrice de Dieu comme se présentant sous forme de dualité est récusée par celui qui se dit être le Fils de Dieu en branchement direct, n'est-ce pas, dans cette épreuve avec son Père. Ce qui nous laisse penser que tout être humain saurait jamais qui est son vrai père. Il en aurait toujours un faux. Il serait entre deux pères, comme on dit entre deux mères. Mais ça, cette fois-ci, alors le diable le quitte, c'est fini. Et alors là, les anges vont s'approcher et servir Jésus. Voilà ce que c'est que la tentation, et j'insiste sur le fait qu'elle ne peut se passer. Pourquoi Dieu nous tente-t-il, je réponds, pour savoir si nous nous y connaissons en père.